Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique, regard sur le Brésil et les défis du plus grand pays d'Amérique latine un mois après l'entrée en fonction de Jair Bolsonaro, élu en octobre dernier, battant Fernando Haddad du Parti des Travailleurs, formation de gauche qui a gouverné le Brésil pendant 13 ans de 2003 à 2016. Géopolitique profite du passage à Paris de Renato Janin Ribeiro, ancien ministre de l'Éducation nationale du Brésil en 2015 et président du directoire de l'Alliance française de São Paulo depuis avril 2016. Professeur d'éthique et de philosophie politique de l'Université de São Paulo et de l'Université fédérale de São Paulo. Renato Janin Ribeiro, bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin, content d'être avec vous.
Merci. L'actualité du Brésil suscite beaucoup d'interrogations. Quel regard portez-vous sur les premiers 30 jours de la présidence Bolsonaro, la constitution du gouvernement qui comprend un tiers de militaires, le soutien apporté à Juan Guaido au Venezuela, l'alignement avec Washington qui représente une rupture avec la tradition de multilatéralisme du Brésil, Renato Janin Ribeiro?
Bon, peut-être ce qui me fait le plus de soucis, c'est le fait que certains portefeuilles qui sont très importants du point de vue symbolique ou même effectif ont été attribués à des personnes qui sont des extrémistes de droite. Je parle avant tout des droits de l'homme qui ont été donnés à quelqu'un qui récemment a déclaré qu'aux Pays-Bas, depuis longtemps, on apprend aux enfants dès l'âge de 6 mois à se masturber. Elle a dit ça carrément. Et qu'il faut éviter ce genre de choses qu'évidemment on n'est pas pratiqué. C'est un mensonge, c'est une fake news, mais qu'elle a prononcé avec toute la conviction. On a un ministre de l'Environnement qui est poursuivi en justice à cause des problèmes environnementaux. Le ministre de l'Éducation, qui est un portefeuille important que j'ai moi-même exercé, c'est la première fois depuis des dizaines d'années dans laquelle un candidat victorieux à la présidence présente l'éducation non pas comme une promesse, comme un espoir pour le développement économique, social, culturel, mais comme une menace aux valeurs des familles. Et dernièrement, les affaires étrangères qui ont été confiées à quelqu'un qui a déclaré carrément qu'il désire se placer sous la tutelle de Trump et s'éloigner, disons, de nos partenaires commerciaux et plus important, des partenaires avec lesquels on a des excédents commerciaux, tels l'Union européenne, les Mercosur, les pays arabes, la Chine. Donc, on a l'impression, sur ces quatre portefeuilles surtout, de quelque chose d'un peu limité du point de vue de l'avenir, en même temps que pour l'économie et pour la justice, deux super ministres ont été invités, des personnes qui ont une certaine popularité, le ministre de la Justice parce qu'il est considéré comme une sorte de monsieur de la lutte anticorruption, mais qui n'a aucune expérience de gestion, c'est Sergio Moro, et d'autre part, un autre sans expérience de gestion, à qui l'économie est confiée et qui désire mener une politique de privatisation et surtout d'allègement de l'autorité de l'État dans tous les endroits. Voilà. Il a même proposé un taux unique sur l'impôt sur le revenu de 20% pour n'importe qui, n'importe quel soit le revenu de personne. Donc, on a, disons, ces quatre portefeuilles que j'ai mentionnés qui sont plutôt confiés à l'extrême droite. Il y a d'autres portefeuilles importants, la justice, l'économie, confiés à une droite que j'appellerais autoritaire. C'est pas une droite soucieuse de l'inclusion sociale, c'est pas une droite qui pense qu'il faut donner suite à ce que Fernando Henrique Cardoso a commencé et que Lula a renforcé avec beaucoup de convictions, mais c'est une droite qui désire, disons, faire confiance seulement aux lois du marché. Ce qui risque au Brésil n'est pas trop marché.
Alors, vous avez donné un petit peu, en nommant les ministres que vous avez mentionnés, un petit peu les grands axes de cette émission. On va parler d'économie, bien sûr, de politique étrangère, à commencer par le voisin du Brésil, Renato Janin Ribeiro, c'est le Venezuela. On a vu le Brésil apporter son soutien à Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président du Venezuela. Quel regard portez-vous sur cette décision? On sait bien que le Brésil aurait été isolé dans la région s'il n'avait pas reconnu Juan Guaido, mais miser ouvertement sur l'alternative Guaido n'est-elle pas un pari risqué pour le Brésil?
Tout à fait. Je suis très critique envers Maduro. les successeurs de Chavez. Chavez a été très populaire, il a gagné toutes les élections, ou à peu près toutes auxquelles il s'est présenté. Mais après sa mort et sa succession par Maduro, l'économie vénézuélienne s'est trouvée dans des difficultés grandes parce que les prix du pétrole a baissé de beaucoup. Donc l'économie du pays est une économie fragile et c'est un gouvernement qui a contourner un peu les lois, contourner un peu la légitimité démocratique en n'acceptant pas l'autorité de l'Assemblée législative élue par le peuple et où l'opposition avait une majorité. Cependant, je pense que l'idée de que quelqu'un puisse s'autoproclamer président de la République et être reconnu par les voisins, par certains voisins, parce que le Mexique ne l'a pas fait, ni l'Uruguay, qui est un pays qui peut être petit, mais a une importance éthique et morale très forte en Amérique latine, du fait surtout de son ex-président Pepe Mujica, qui a été, disons, quelqu'un de très admiré partout dans le monde. Et, disons, il me semble que la meilleure des choses aurait été pousser la négociation plus loin. C'est-à-dire faire en sorte que les deux parties s'accordent pour de nouvelles élections, quelque chose comme ça, sans donner un soutien très fort ni à un côté ni à l'autre. Je ne vois pas exactement qui pourrait faire cela aujourd'hui, parce que les groupes de Lima, dont fait partie le Brésil, a pris parti pour l'autoproclamer président. D'autre part, disons, la plupart des pays du monde continuent à reconnaître Maduro, qui a des soutiens des armées, qui a des liens avec la Russie et la Chine. Donc, on a une situation assez grave. La tradition de la politique étrangère brésilienne a toujours été très prudente. Ils ont toujours cru, exactement au contraire des États-Unis, que les solutions des forces, telles l'invasion de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye, et des choses comme ça, ça ne marche pas. Et mieux vaut faire des négociations, même si cela s'avère très lent, très douloureux, très difficile, que de précipiter les choses et par la suite créer des bourbiers tels que ceux que j'ai mentionnés et qui sont les faits des interventions américaines.
Le groupe de Lima, on peut le rappeler pour nos éditeurs, il a été créé en 2017 pour promouvoir une sortie pacifique de la crise au Venezuela. Donc il y a 11 des 14 pays de ce groupe qui ont apporté leur soutien à Guaido. Quelques mots sur le Mexique qui, lui, vous le signaliez à l'instant, s'est montré plus prudent.
Oui, le Mexique vient de changer de gouvernement. López Obrador, qui vient de la gauche, a été élu président. C'est pas la première fois qu'il se présente. On dit qu'il a été perturbé par la fraude lors d'une des élections précédentes. Mais de toute façon, il a déclaré qu'il soutient pas Guaido, qu'il accepte la présidence de Maduro. Mais je pense que personne n'est content de ce qui se passe au Venezuela. Je pense qu'il y a des gens qui désirent Guaido, des gens qui désirent Maduro, mais personne ne les désire trop. C'est-à-dire, je pense que la chose la plus importante serait peut-être vraiment des négociations. Dans une autre époque, je pense que la seule autorité qui pourrait maintenant insister sur les négociations serait soit l'ONU, soit les papes. Les papes gardent peut-être une autorité morale, même si, surtout la droite lui en veut, parce que c'est un homme qui a pris des positions progressistes sur plusieurs sujets, mais je pense qu'il faudrait pousser autant que possible la possibilité d'une négociation.
On peut imaginer d'ailleurs que l'Église catholique, on peut rappeler d'abord que le pape est argentin, il était il y a quelques jours au Panama, et on peut imaginer facilement l'Église catholique jouer un rôle, ou peut-être commencer, mais on sait que la diplomatie Vatican est une diplomatie discrète mais très habile. Oui, on peut l'imaginer déjà en train de trouver une sorte de modération entre les deux parties aujourd'hui au Venezuela. Le Venezuela qui a avec le Brésil une frontière de 2200 kilomètres de long, c'est beaucoup. On le sait, la crise au Venezuela a un fort impact au Brésil, ne serait-ce qu'en termes d'immigration. Le Brésil est-il prêt à une possible nouvelle hausse du nombre de réfugiés?
C'est difficile. On a reçu des réfugiés d'Haïti, de la Syrie, mais disons, dans des chiffres nettement inférieurs à d'autres pays. Par exemple, la Colombie a reçu beaucoup plus de réfugiés du Venezuela que le Brésil l'a fait. L'Allemagne et l'Europe ont reçu beaucoup plus de Syriens que nous-mêmes. Nous avons une importante communauté syrienne au Brésil, donc elle peut accueillir des gens, mais ça se mesure à des dizaines de milliers de personnes, peut-être. On dit qu'il y a des millions peut-être des gens qui ont quitté le Venezuela les dernières années. Il faudra mettre une limite à tout cela, mais je ne vois vraiment pas d'autres conditions que la négociation. Vous savez, j'ai été au Venezuela juste après le coup d'État de 2002, le dernier coup d'État traditionnel, ambassade américaine, cardinal, patronat, etc., et qui a duré 47 heures, semble-t-il. Et 6 mois après, j'ai assisté à une manif contre Chavez, qui était retourné au pouvoir avec le soutien de son peuple, une manif énorme contre Chavez, ça fait 16 ans. Et quelques jours après, une manif énorme pour Chavez. Donc, le pays est divisé. Je ne sais pas comment cette division s'opère aujourd'hui, quels sont les chiffres d'une part et d'une autre, mais de toute façon, cette division vient de très longtemps. Elle a presque 2 décennies. Et donc, c'est qu'on a pu accumuler des haines tout ce temps-là. Il faudra vraiment qu'à un certain moment, les gens recommencent à dialoguer, recommencent à vivre ensemble.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, on va quitter le Venezuela pour poursuivre avec la politique étrangère. Premier déplacement à l'étranger du nouveau président du Brésil, Davos, pour le forum économique du même nom. Pas de conférence de presse, une courte intervention, pas de grande déclaration, sauf à affirmer avoir pris les rênes le 1er janvier d'un Brésil plongé dans une profonde crise éthique, morale et économique. Fin de citation. Pour le reste, un discours jugé très superficiel alors qu'il était très attendu sur les mesures qu'il compte prendre pour redonner des couleurs à la première économie d'Amérique latine. Renato Janine Ribeiro, un commentaire ?
Bon, il y a plusieurs choses là-dessus. D'abord, c'est un candidat qui a été élu sans faire de discours ni rien, parce qu'il avait, d'après la loi brésilienne, 8 secondes par jour à la télé, contre 5 ou 10 minutes de son adversaire de droite, l'ex-gouverneur de São Paulo, Alckmin, qui était le successeur, disons, de Fernando Henrique Cardoso sur l'échiquier politique brésilien. Et avec ces 8 secondes, il a opéré des miracles, surtout parce qu'il a fait usage des réseaux sociaux, surtout les WhatsApp, qui au Brésil est très répandu, et qui a sur le Facebook un certain avantage. Le Facebook tend à être public, tandis que les WhatsApp est un réseau social qui tend à être privé. Donc il y a quelques dizaines de personnes qui répandent des nouvelles, beaucoup de fausses nouvelles, des attaques vraiment tout à fait vraisemblables, surtout contre la gauche, des inventions qui ont obtenu un soutien assez fort pour lui, mais sans qu'il soit obligé de prendre la parole, y compris du fait qu'il a subi un attentat et que donc il n'a pas fait véritablement une campagne. Donc sa communication est une communication d'un nouveau type. C'est pas la communication traditionnelle de quelqu'un qui s'adresse à la presse et qui est contesté par des journalistes qui lui posent des questions auxquelles il répond bien ou mal et qui sera jugé par ses réponses. C'est quelqu'un qui utilise des expressions très simples, très directes, très agressives et comme ça il a un électorat assez fidèle qui considère vraiment que ces solutions faciles sont les meilleures possibles. Mais c'est un grand problème parce qu'à Davos, non seulement son discours a été un discours, disons, jugé pas trop fort, mais même ces 3 ministres qui l'accompagnaient n'ont pas parlé à la presse. Il y a eu un jour où le président et ses 3 principaux ministres devraient être interviewés. Aucun ne s'est présenté. Donc, tout cela crée, à l'échelle internationale, un grand souci. Même s'il y a beaucoup de gens qui misent sur, disons, les réformes de droite qu'ils désirent mener. C'est-à-dire commencer par celle de la sécurité sociale, en passant par une réforme travailliste plus dure avec les droits des travailleurs, etc. Donc, il y a tout un soutien du marché brésilien et étranger à ces mesures, mais on ne sait vraiment pas ce qu'il va faire avec. Donc, il y a un capital de popularité qu'il conserve auprès de son électorat moins instruit, mais auprès des grandes forces du capital, il est en train peut-être de risquer un peu ce capital, qui se tourne un peu vers son vice-président, qui est un général très conservateur, qui a quitté l'armée active parce qu'il avait tenu des propos vraiment contraires au règlement militaire, mais qui s'est présenté les derniers jours comme quelqu'un de plus modéré que lui. Par exemple, on a un député fédéral, le seul député fédéral sur 513 qui se déclare gay, Jean Willis, de Rio de Janeiro, et après avoir été réélu pour un 3e mandat, Jean Willis a dit « Bon, je quitte le pays parce qu'on me menace, on menace d'assassinat. » La famille Bolsonaro s'est moquée de lui, tandis que le président par intérim, le général Mouron a déclaré que cela n'était pas acceptable de menacer un élu du peuple, des choses comme ça.
Tout cela qui était annoncé d'une certaine manière déjà durant la campagne, mais qui se poursuit et s'affirme depuis l'élection de Jair Bolsonaro et son entrée en fonction le 1er janvier. Effectivement, Jean Willis, que vous citiez à l'instant, craignant pour sa vie, a pris l'exil en dehors du Brésil. On revient sur les questions économiques, si vous voulez bien, Renato Janine Ribeiro. On a entendu le ministre de l'économie brésilien, Paulo Guedes, s'être donné comme priorité absolue la réforme du système des retraites, actuellement très généreux, et un vaste plan de privatisation pour réduire la dette gigantesque. Vous êtes d'accord avec ces priorités ?
Je trouve que c'est très compliqué. Parce que d'abord, le système des retraites, il est très généreux, surtout avec les secteurs publics, et au sein du secteur public, surtout avec les militaires, les juges et les procureurs. Donc, ce sont trois carrières qui sont des soutiens très importants du gouvernement actuel. Il est douteux que ces gens acceptent de perdre leurs privilèges, même si ce sont les sommes de les faire. Je ne crois pas trop qu'ils arrivent, par exemple, à réduire les salaires des juges. La Constitution brésilienne établit un plafond pour la rémunération de tout le monde. Les employés de l'État ne peuvent pas toucher plus qu'un juge de la Cour suprême, ce qui doit toucher légèrement au-dessous des 10 000 euros par mois. Donc, ce serait les plafonds. Mais il y a plus d'un tiers des juges au Brésil, que ce soit des juges des niveaux fédéraux ou des niveaux des États, qui touchent plus que ça. Donc, il y a des constantes ruptures de la légalité qui sont acceptées et il faudrait mettre fin à cela. Mais en même temps, ce sont des soutiens importants de l'actuel gouvernement. Parce que c'est une carrière qui s'est mise contre Lula, qui a condamné Lula, l'ex-président Lula, à la prison, qui a d'autres bénéfices, etc. L'armée, il y a quelque chose de semblable. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé avec les retraites de l'armée. Alors, une réforme devrait toucher ces privilèges. C'est pas facile de les faire.
Alors, et la question du vaste plan de privatisation pour réduire la dette gigantesque, pour terminer cette première partie d'émission sur cette question des privatisations, Renato Janine Ribeiro.
Bon, je ne suis pas spécialiste en économie, mais de toute façon, il semble que ce n'est pas que ça. Il s'agit aussi d'une croyance très forte d'après laquelle les entreprises privées sont plus efficaces que celles d'État. Donc l'État se dégagerait de cela pour se consacrer à ses tâches propres. C'est ce qu'avait promis Fernando Henrique Cardoso, ça fait presque une trentaine d'années. Le problème, c'est que, par exemple, on vient d'avoir cette catastrophe écologique, ce crime environnemental affreux, commis par une entreprise privatisée, Vale do Rio Doce.
Vous parlez de ce barrage qui s'est écroulé,
oui.
Laissant déverser des déchets, entre guillemets, d'exploitation minière alentour.
Oui, et c'est une entreprise privatisée qui en est responsable, c'est-à-dire d'une part, l'État n'a peut-être pas fait son métier, qui était d'accompagner tout ça, mais d'autre part, l'entreprise, et c'est la deuxième fois en 3 ans que la même entreprise est responsable d'une catastrophe aussi grande dans le même État.
Alors, on parlera aussi, Renato Janine Ribeiro, des changements à attendre en termes de politique étrangère. Je pense en particulier au choix de déplacer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem. On voit bien là une politique que Jair Bolsonaro souhaite calquer d'une certaine manière sur la politique de Donald Trump. Conséquence ou pas directe de cela, l'Arabie Saoudite a suspendu ses importations de volailles de 5 groupes agroalimentaires brésiliens, faisant valoir des raisons technique. On peut souligner que les pays arabes font partie des grands acheteurs de viande brésilienne avec des exportations estimées à environ 1 milliard de dollars par an. Est-ce qu'on peut craindre que certaines décisions de politique étrangère aient un impact négatif ailleurs que dans le domaine que je viens d'évoquer pour le Brésil?
Oui, justement, c'est quelque chose qui peut mettre en péril les mesures économiques prônées par les ministres de l'économie, c'est-à-dire à quoi bon de privatiser, de faire d'autres choses qui pourraient peut-être, d'après eux, améliorer l'économie brésilienne si on perd des marchés à l'étranger.
Géopolitique, nous retrouvons Renato Janine Ribeiro, ancien ministre de l'Éducation et président de l'Alliance française de São Paulo. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Brésil. Nous retrouvons notre invité Renato Janine Ribeiro, ancien ministre de l'Éducation nationale du Brésil en 2015 et président du directoire de l'Alliance française de São Paulo depuis avril 2016, professeur d'éthique et de philosophie politique de l'Université de São Paulo et de l'Université fédérale de São Paulo. Renato Janine Ribeiro, on a terminé la première partie de l'émission sur la question de déplacement de l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem et du possible parallèle à faire entre la politique, les décisions que Jair Bolsonaro entend prendre, peut-être avec la politique de Donald Trump. Est-ce qu'on va voir vraiment dans les années qui viennent une sorte, alors on l'a baptisé le Trump de l'Amérique latine, quels commentaires vous pouvez faire par rapport à cela et qu'est-ce que l'on peut attendre de la relation entre le Brésil et les États-Unis dans les semaines à venir et dans les années à venir?
Bon, il y a plusieurs points en commun. Par exemple, les deux sont des enthousiastes de la communication par Twitter ou par WhatsApp, des communications très rapides. Ils ont, au lieu de faire des communiqués officiels, ils préfèrent mettre des tweets des 140 ou de 180 caractères pour communiquer des politiques d'État, et qui sont souvent faites sans beaucoup de réflexions et qui énervent un peu les responsables au sein de l'administration elle-même, parce qu'ils trouvent que disons, les deux présidents, soit Trump, soit Bolsonaro au Brésil, se précipite sur des dossiers qui sont parfois des dossiers très compliqués. Par exemple, Bolsonaro est allé rendre visite à Taïwan avant les élections, ce qui a agacé la Chine, qui est l'un de nos grands partenaires commerciaux avec laquelle on a un excédent commercial important, même si on exporte surtout des matières premières et si on en importe des produits manufacturés, ce qui fait quand même une différence importante du point de vue qualitatif. Mais disons, c'est pas parallèle entre Trump et Bolsonaro concerne un peu la forme de communication des deux, un peu, disons, le fait que ce sont des personnes un peu sans limite dans leurs déclarations, qui ne réfléchissent pas trop, des personnes qui appellent à une sorte de guerre intérieure aux autres, c'est-à-dire Bolsonaro est président depuis presque un mois, n'a jamais parlé comme président de tous les Brésiliens. N'a jamais dit « je suis le président de tous les Brésiliens ». Je vais entamer un dialogue même avec ceux qui n'ont pas voté en moi. Je vais tenir compte de la vie de tous. Jamais il n'a dit ça. Il s'est toujours présenté comme le chef d'un parti. Il continue la campagne électorale. C'est ce que fait un peu Trump aussi, c'est-à-dire le fait que Trump est menacé et produit un shutdown de l'administration fédérale américaine, c'est quelque chose d'inouï de la part du président lui-même. Et en plus, il y a le fait que pour les deux, cette autorité, il y a cette conviction qui, disons, une valeur démocratique très importante qui est le self-restraint, qui est une sorte d'autocontention, d'éviter de faire usage de toute la panoplie des pouvoirs qu'a un président, c'est quelque chose d'important. Ni l'un ni l'autre ne donne d'importance à cela.
On reviendra sur les questions intérieures au Brésil avec la place de l'opposition. Juste deux éléments. Renato Janine Ribeiro, à propos toujours de politique étrangère. On l'a dit, Jair Bolsonaro revendique haut et fort la comparaison avec Donald Trump. Il s'est dit, le président brésilien, début janvier, prêt à discuter de l'installation d'une base militaire américaine sur le territoire brésilien. Je vais vous demander votre commentaire là-dessus. Et puis par ailleurs, le multilatéralisme, le Mercosur n'est pas à l'évidence la priorité de Bolsonaro. C'est vraiment une page sur autre chose qui s'ouvre pour le Brésil.
Oui, mais pour la base militaire par exemple, elle a été tout de suite désavouée par les militaires brésiliens eux-mêmes, qui ont dit qu'il n'en était pas question. Donc souvent, il se précipite, il fait des déclarations, et les siens eux-mêmes disent, bon, ce n'était pas ça. Il y a aussi un parallèle, parce que les livres qu'on a publiés sur Trump montrent que son équipe elle-même met les bâtons dans les roues parfois pour éviter que des mesures annoncées par Trump soient implantées, parce qu'elles auraient des effets collatéraux négatifs. Alors, il y a une difficulté très grande de la part de ces noyaux d'extrême droite qui entoure le président Bolsonaro, une difficulté très grande pour eux de comprendre vraiment comment fonctionne l'appareil de l'État.
Alors, l'opposition, Renato Janine Ribeiro, vous l'avez dit, Bolsonaro ne se présente pas comme le président de tous les Brésiliens. On peut rappeler que son élection a été due en grande partie à un virulent sentiment anti-PT, le Parti des Travailleurs, sur lequel il a surfé pendant toute la campagne. Ce parti a été impliqué dans de nombreux scandales de corruption qui ont notamment entraîné l'emprisonnement de Lula. Fernando Haddad a donc été battu par Jair Bolsonaro. Quelle place est-elle encore dans la difficulté et le tsunami qu'a représenté la victoire de Jair Bolsonaro, un peu dans une incapacité peut-être à se regrouper, je ne sais pas. Quel est le climat aujourd'hui politique au Brésil ? Est-ce la société elle-même clivée ? Racontez-nous.
Bon, je dois vous dire que je considère que la condamnation de Lula pour une soirée d'un appartement sur la plage près de São Paulo, à mes yeux, n'a pas été juste. Il n'y avait pas assez de preuves, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont publié des critiques contre cette condamnation qui a été prise d'ailleurs justement par celui qui est maintenant le ministre de la Justice du gouvernement Bolsonaro. Mais de toute façon, je ne crois pas que cela ait été juste. Cela dit, je pense que le PT, le Parti des Travailleurs, a commis plusieurs fautes lors de la campagne. D'abord, ils ont misé tout le temps sur le nom de Lula. Il était évident que Lula n'allait pas être autorisé à être candidat à la présidence. On n'avait pas fait tout ce qui a été fait contre Dilma Rousseff, contre les PT, etc., pour lui permettre de se présenter à la présidence et d'être élu, ce qu'il aurait été peut-être.
Donc, dès le départ, il aurait fallu trouver un autre candidat.
Un autre candidat. Je pense que la gauche, ou disons le centre-gauche, comme je préférerais le dire, a beaucoup discuté des noms des candidats, soit Fernando Haddad par les PT, soit Ciro Gomes par d'autres mouvements du centre-gauche, et ils ont peu discuté ce qu'ils feraient une fois au pouvoir, parce qu'on vit quand même une crise économique. Il y avait des promesses de reprendre, disons, les politiques sociales de Lula qui demandaient de l'argent. Les problèmes avec Dilma Rousseff, même si la présidente Rousseff n'était pas quelqu'un de très habile politiquement, ce qui lui a coûté son mandat, c'est qu'elle n'avait plus d'argent. À partir d'un certain moment. Donc, faire une campagne électorale en promettant qu'on va remettre de l'argent dans l'éducation, la santé, etc., c'était un peu bizarre parce que c'était pas évident que ça aille se passer. Et ce que je vois depuis la défaite de l'opposition lors des élections, c'est qu'il y a très peu de propositions objectives. Il y a beaucoup de promesses d'un retour aux années brillantes, heureuses, etc., de Lula, mais très peu de discussions sur la manière dont cela pourrait se produire. Et donc, l'opposition se trouve un peu sans savoir quoi faire. Elle a du mal à se rassembler. Elle est partagée en deux, trois groupes, mais surtout, disons, qu'est-ce qu'on va proposer pour le Brésil? Par exemple, le Brésil, qui avait exporté de plus en plus de manufacturés depuis quelques dizaines d'années, est un pays qui est revenu au stage d'exporter des produits, des matières premières, des commodities, comme on dit aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui témoigne d'une économie moins forte qu'elle n'aurait dû être. L'éducation s'est améliorée beaucoup lors des années Lula. Beaucoup d'argent y a été mis avec conscience, etc. Mais la productivité des travailleurs brésiliens n'a pas augmenté. Donc, on a plusieurs problèmes. On a eu une histoire de succès vraiment important en ce qui concerne l'inclusion sociale, la réduction de la misère, l'amélioration de la santé, la fréquentation des établissements d'enseignement, tout ça. Mais disons, les résultats de tout cela pour que l'économie développe soit plus autosoutenable, disons, les résultats ne sont pas très clairs. Et même en matière d'environnement, ça n'a pas été une grande priorité. Pendant un moment du gouvernement Lula, ça a été une priorité. Avec Dilma Rousseff, ça cessait de l'être et les choses sont empirées avec Temer et maintenant peut-être...
Jair Bolsonaro qui a clairement dit qu'il optait pour la même politique que Donald Trump en matière d'environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à espérer en termes d'amélioration et de la prise de conscience de l'importance de ces questions.
Et ça, c'est grave parce que, par exemple, j'ai des amis qui plantent l'acajou. L'acajou, c'est un arbre qui tarde 40 ans à vraiment pousser. Il faut absolument que ce soit fait dans le respect de tous les règlements internationaux. Et ça donne de l'argent, tout simplement, c'est pas pour votre vie, c'est pour les petits-enfants que l'on plante ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on laisse tomber ces critères très rigides et très nécessaires de respect à l'environnement? Le Brésil va cesser d'exporter ça, ou va exporter ça à des marchés vraiment qui paieront très, très bas tout cela. Donc, il y a plusieurs mesures dans ce que propose Bolsonaro qui risquent d'être négatives du point de vue économique, vraiment.
Alors, parmi les grands fléaux que connaît le Brésil, il y en a deux, la corruption et la violence. Renato Janine Ribeiro, la corruption, la lutte contre la corruption, en tout cas ça a été annoncé comme tel, l'une des priorités de Jair Bolsonaro. On voit son fils aujourd'hui, l'un de ses fils, avoir des soucis avec des soupçons de malversation financière. Est-ce qu'on peut imaginer que les choses pourraient aller plus loin?
C'est possible. Évidemment, je ne suis pas juge, je ne peux pas savoir quels sont les chefs d'accusation, etc. Je ne peux pas dire que ce soit corrompu, pas du tout, je n'ai aucune idée là-dessus. Mais de toute façon, ce qui est bizarre, c'est que d'une part, la corruption reste quelque chose dans l'agenda, quelque chose qui est pratiqué, qui n'a pas été le seul fait du PT. Et d'autre part, il y a des choses qui ne relèvent pas de la corruption elle-même, mais des avantages et des privilèges que certains ont, y compris dans l'appareil d'État. Des gens qui touchent au-dessus du plafond constitutionnel permis par la loi, d'autres choses comme ça. Pour la corruption, je pense qu'on a ces problèmes. La sécurité publique, c'est aussi un autre grand problème. Au moment où s'est terminée la dictature militaire, en 1985, on avait quelque chose comme 100 000 personnes emprisonnées au Brésil. On en a 700 000 maintenant. Donc, le nombre de prisonniers a augmenté 7 fois et les sentiments de violence s'est accru. À quoi se doit cette augmentation de la violence? J'ai demandé ça à plusieurs amis qui travaillent avec ce sujet. Jamais eu de bonne réponse. Mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et malheureusement, ce qu'on propose, c'est surtout le renforcement de la répression. Ce qui risque de ne pas trop marcher parce que, par exemple, bâtir une prison, c'est plus cher que bâtir une école. J'ai dit une banalité, mais évidemment, si on va donner beaucoup de force à la répression, cela signifie que probablement l'éducation, la santé vont en souffrir.
Et alors, pour lutter contre la violence, la libéralisation de la détention d'armes à feu, ça a été l'une des premières mesures décidées par le président brésilien à travers un décret. Un commentaire?
Toutes les réflexions faites un peu partout dans le monde montrent que c'est exactement le contraire de ce qu'on aurait dû faire. Donc, ça ne marche pas.
Alors, très rapidement, et après ça, on parlera de la langue française, Renato Janine Ribeiro, au Brésil. Contrairement à Trump, Jair Bolsonaro n'a pas de majorité au Parlement. Comment peut-il mener à bien son programme? Très rapidement et concrètement, d'où peuvent venir les difficultés pour Jair Bolsonaro?
Bon, c'est très difficile, c'est très compliqué au Brésil parce qu'on a 30 partis représentés au Congrès. Si vous désirez la majorité absolue nécessaire pour faire voter la plupart des lois, ça signifie qu'il faudra rassembler au moins 7-8 partis. Parmi les non-petits, disons. Si vous désirez faire un changement à la Constitution, il faut encore davantage, les 3/5 de chaque chambre. Et il est impossible d'un président de gouverner sans effectuer certains changements à la Constitution, pas pour des raisons politiques, etc., mais pour des raisons économiques. Il faut souvent changer, disons, l'attribution des impôts, et cela lui sera nécessaire. Comment fera-t-il? Des négociations. Les négociations avec les députés, les sénateurs vont exiger des choses qui vont à l'encontre de son discours anticorruption. Ça, c'est la chose la plus probable. Donc, c'est quelque chose de très compliqué.
Alors, je le disais, et il nous reste 6 minutes avant la fin de cette émission, et c'est intéressant de vous avoir, Renato Janine Ribeiro, puisque vous êtes, je le disais en introduction, ancien ministre de l'Éducation nationale du Brésil en 2015, donc sous Dilma Rousseff, c'était au moment de son deuxième mandat, et président du directoire de l'Alliance française de São Paulo depuis avril 2016. Quelle est la situation du français aujourd'hui au Brésil ?
Bon, le français était une langue très importante au Brésil. La présence de la culture française était quelque chose qui se faisait remarquer, surtout parce que, disons, l'élite, elle était plutôt francophone, plutôt francophile, qu'anglophone ou anglophile. Bon, des changements se sont opérés. La proclamation de la République à la fin du 19e siècle nous a tourné un peu vers les USA. La révolution de 1930, qui a retiré un peu du pouvoir des grands propriétaires ruraux, a réduit également le poids du français pour l'avantage des États-Unis, des choses comme ça. Mais de toute façon, les dernières 30, 50 années ont été marquées par une réduction encore plus prononcée. C'est-à-dire, c'est encore une langue importante au Brésil. Elle est apprise par des centaines de milliers d'élèves au lycée.
Comme deuxième langue vivante, je suppose, de toute façon,
deuxième,
après l'anglais.
Troisième, parce que l'espagnol, à un certain moment, était obligatoire. Alors, le français serait plutôt facultatif. Disons, l'anglais est obligatoire. L'espagnol, ça dépend des États. Mais le français, vraiment facultatif. Et les alliances françaises ont une présence importante. Celle de Saint-Paul, environ 5000 élèves, sans compter les élèves qui apprennent tout cela à distance par des systèmes très modernes d'apprentissage de la langue. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas qu'une alliance française, mais quelque chose de francophone. Parce que la culture francophone devient très forte aujourd'hui. Une culture qui se répand dans d'autres pays. Par exemple, le président de la France a incombé une écrivaine franco-marocaine, Leila Slimani, de symboliquement diriger la francophonie. Donc, ce qu'on essaye de faire, non seulement d'avoir des bons rapports avec les grands pays, les pays les plus riches francophones, la Belgique, la Hollande, la province du Québec, mais également de renforcer les liens avec les Haïti et les pays d'Afrique francophones. Les problèmes, ce sont des pays pauvres, souvent. Mais ce sont des pays qui ont des rapports de plus en plus forts avec le Brésil. Moi-même, pour la première fois de ma vie, j'ai un doctorant tchadien qui travaille avec moi maintenant sur Thomas Hobbes, qui est le philosophe que j'ai le plus étudié. Mais c'est la première fois que j'ai un étudiant francophone et francophone d'Afrique. Donc, il y a une augmentation de ces rapports, un renforcement. L'une des choses qu'on fait, qui est un motif d'orgueil pour nous, c'est le 20 novembre, c'est le jour de la mort des zombies, qui a été le premier grand lutteur des Noirs pour leur libération, 16e et 17e siècle. Il a été tué en 20 novembre. Ce jour est au Brésil commémoré comme le jour de la conscience noire dans pas mal de villes, dans pas mal d'États. Et ce jour-là, l'Alliance française fait une sorte de journée de jazz noir. Jazz noir, anglophone, francophone, portugais, etc. On ferme des rues, etc. On fait des choses. C'est-à-dire, notre idée de la francophonie est une idée très plurielle. Elle comprend les Africains, elle comprend d'autres peuples. Et en même temps, il y a évidemment un problème. C'est parce que, disons, les Américains, ils n'ont pas besoin de consacrer beaucoup d'argent pour la diffusion de la culture, qui passe surtout par l'entertainment. Leur soft power, c'est l'entertainment. Tandis que les soft power français, ce serait plutôt une culture assez classique, disons. Pas que classique, mais plus classique que celle des États-Unis.
Qui passe par la lecture, c'est cela que vous êtes en train
surtout
de nous dire.
Et ça, c'est pas facile. Et les ressources que consacre la France s'amenuisent, ce qui rend les choses un peu plus difficiles. Je peux rapidement comparer avec l'Allemagne. Les Allemands savent parfaitement que leur langue est très difficile. Et s'ils ne mettent pas beaucoup d'argent, s'ils n'offrent pas des carottes aux gens, ce sera difficile de diffuser la langue et la culture allemande. La France sait qu'il est plus facile, que sa culture est plus tentante, qu'elle est plus attirante, etc. Mais parfois, il me semble que la France accorde moins d'importance à ce soft power important qu'elle a, qu'elle ne devrait pas le faire.
C'est un message lancé et qui, je l'espère, sera entendu. En tout cas, votre français, Renato Janine Ribeiro, est absolument impressionnant.
Merci beaucoup.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Renato Janine Ribeiro, je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale du Brésil en 2015 et président du directoire de l'Alliance française de São Paulo depuis avril 2016 et professeur d'éthique et de philosophie politique de l'Université de São Paulo et de l'Université l'université générale de São Paulo. Merci pour ces décryptages du Brésil aujourd'hui et du tour d'horizon que vous nous avez permis de faire. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À demain.